tous les dimanches, dès 14h, retrouve les replays de tes émissions avec Infini Rewind. Une nouvelle heure commence. Nouvelle heure. Sur Infini Radio, ma web radio de proximité.
Nom de Zeus. Tous les lundis. 20h, 21h.
C'est une bonne situation, ça, Scream.
Infini Pop.
Là où on n'a pas besoin de route.
Et salut tout le monde, bienvenue sur Infini Pop, votre pilule pop culture sur Infini Radio. Voilà, nous sommes de retour après 2 semaines de repos en vacances. Je ne suis pas seul, bien sûr, je suis avec Jazz. Comment ça va, Jazz? Est-ce que tu as profité de tes vacances?
Alors, je n'avais pas de vacances, mais j'ai quand même bien profité et j'ai taffé quand même pour la Infini Pop. Hein. Faut pas oublier.
Ah bah oui, on va... Bien sûr, on va en parler tout à l'heure. Et oui, ce sera notre watchlist, vu que notre ami Jazz nous a offert une production made in... fait maison,
made
plutôt.
Jazz.
Fait maison, made in jazz, voilà. On en parlera dans la watchlist en fin d'émission. En tout cas, voilà, c'est le retour des vacances. En tout cas, Jazz, je sais pas si t'as remarqué, mais depuis qu'on a passé le 1er novembre, il y a un petit truc dehors qui se passe, là, quand le vent souffle. Je sais pas si t'entends, il y a un petit son là en arrière-fond.
Oui,
là.
Tu l'entends. Tu sais que j'allais te dire la même chose, je trouve ça bizarre. Je me suis levé ce matin et je me suis dit, tiens, depuis quelques jours, j'entends une voix féminine dans l'air.
Ouais, un petit truc un peu qui fait Noël. Je sais pas ce que ça peut être, en tout cas.
Ça tombe pas rond,
en tout cas. Voilà, tout ce que j'espère, c'est que ce soit pas Maria Carré.
C'est pour ça que j'allais dire ça tombe pas rond. Mais oui, j'espère que c'est pas Maria Carré.
Ah, peut-être, on verra bien. En tout cas, pour cette nouvelle émission d'Infini Pop, aujourd'hui au programme, on aura bien sûr les news, séries et ciné, avec deux retours de films qu'on connaissait bien dans les années 2000. Ensuite, on va avoir les sorties ciné avec Jazz, le focus musique avec un groupe emblématique qui sort un nouveau CD, et tu vas en parler durant le focus musique. Ensuite, il y aura la petite histoire, les news et la watchlist où, comme je disais, tu vas aussi parler de ta production perso que tu as sortie pour Halloween qui est passée en direct d'ailleurs sur Infini Radio. Pour ceux qui voudront l'entendre, n'hésitez pas à vous connecter sur le site Infini Radio pour revoir le replay. À part ça, niveau musique, bien sûr, on va s'écouter The Rembrandts avec I'll Be There For You, bien sûr, pour le générique de la série Friends. Aussi Pink, The Cure, Juliette Armanet et Thérapie Taxi aussi d'ici la fin de l'émission. Voilà. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne rentrée. Vous êtes sur Infini Pop, sur Infini Radio et c'est parti pour une heure d'émission. Et je vous le disais dans le générique, on a deux retours et là on passe plutôt bon. Un côté humoristique et un côté film de rang. On va commencer avec le côté humoristique vu que près de 20 ans après, les frères Wayans ont décidé de redonner vie à la franchise Scary Movie. Et oui, Marlon Wayans, Kenan Ivory Wayans et Sean Wayans sont actuellement en train d'écrire un nouveau long métrage produit par Miramax et qui sera tourné l'année prochaine. Ils l'ont confirmé à un magazine américain. Lancé en début des années 2000, les 5 films de la franchise, dont les bénéfices se comptent en centaines de millions de dollars, reprenaient les codes des films d'horreur de l'époque, à la star de Scream ou Souviens-toi l'été dernier, pour mieux les détourner et s'en moquer. La franchise a notamment permis de mettre en lumière des actrices comme Regina Hall ou Anna Faris, laquelle a par la suite tourné avec des réalisateurs comme Graham Araki dans Smiley Face ou Sofia Coppola dans Lost in Translation. C'est plutôt une bonne nouvelle, Jazz, pour ceux qui aiment bien les films un peu humoristiques comme ça.
Moi, je suis un fan de Scary Movie 1 et 2. Je suis un peu moins fan du 3, 4, 5. Tout d'abord, tout simplement parce que c'est pas le même humour. Franchement, le 1 et le 2 fonctionnent toujours aussi bien.
Ah bah oui, bien sûr.
C'était violent, c'était notre époque, hein, mon cher Peggy. Hein, c'était Scream, Souviens-toi l'été dernier, Urban Legend, The Faculty. Enfin, c'était toute la parodie des films d'horreur, des science-fiction de l'époque. Écoute, j'étais très 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 content de voir qu'ils allaient revenir. Et quand tu vois la photo, tu te dis, ils vont faire une parodie de Scream. Et ça, Et ça, c'est ouais,
la photo est assez rigolote. Ouais. On voit l'un des frères Wayans. Alors, je crois que c'est Marlon Wayans, mais je suis pas sûr au niveau du c'est Marlon, qui est un peu paniqué. Derrière lui, on retrouve bien sûr l'iconique Ghostface qui est repris dans Scream, sauf que là, il reprend la version Scary Movie, un peu en mode défoncé, comme dans le premier film. Ouais, franchement, ça a fait un petit effet de bombe sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour moi aussi. On va revoir en plus. Avec tous les films d'horreur qu'il y a eu depuis les années 2000, je pense que là, on va avoir des petites pépites, à mon avis, assez intéressantes.
Totalement.
Et du coup, on va rester dans les films d'horreur, parce qu'il y a une deuxième franchise aussi qui va reprendre vie.
Et oui, totalement. Et alors, c'est fou, parce que tu parles de Scary Movie, et ce film-là a été parodié aussi par Scary Movie, puisque je parlais de Souviens-toi l'été dernier, qui revient avec Jennifer Love Hewitt et Freddie Prinze Jr. On se rappelle tous, hein, sous l'été dernier, c'était le film qui est sorti en 1997, il me semble, Kevin Nielsen, qui a été un immense carton. C'est des jeunes qui vont malencontreusement tuer quelqu'un au bord de la route, ils vont se débarrasser du corps, et un an plus tard, en fait, ils reçoivent un papier en disant « Je sais ce que tu as fait l'été dernier ». Le premier film a été un immense succès, le deuxième un peu moins, le deuxième est un navet.
J'avais bien aimé le deuxième, moi, pourtant.
Ah ouais,
le deuxième était sympa. Je trouve que le troisième est un navet.
Alors, le troisième, c'est un directif vidéo. En fait, à la base, ouais. Après le deuxième opus, un troisième opus avait été lancé, et finalement, en fait, ça ne s'est pas fait. Il y a eu le directif vidéo Souviens-toi l'été dernier 3, qui était très très mauvais, qui reprenait un peu les codes des deux premiers, mais avec un peu moins de budget. Et la saga avait été un peu enterrée. Alors, quand Scream 4 est sorti au cinéma, tout de suite, ils avaient prévu un nouveau Souviens-toi l'été dernier avec Jennifer Love Hewitt. Ça ne s'est pas fait. Scream 5, Scream 6 ont cartonné. Et là, ça y est, ils relancent la saga avec des actrices aussi de la nouvelle génération. Hein, notamment, on va retrouver des actrices de Riverdale. Et là, le film sera confié par Jennifer Katyn Robinson, qu'on a pu voir, qui a pu réaliser pas mal de films Netflix ces dernières années. Donc, moi, je dis banco, surtout si on revoit les acteurs de l'époque. Donc, on revoit les deux acteurs.
Oui, bien sûr.
On revoit pas Ryan Finney et Sarah Michelle Gellar, parce que, attention, spoiler, il décède dans le premier film. Mais on va revoir les deux héros de la saga.
Les deux héros, ouais. Bon, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle de revoir une franchise comme ça, revenir sur le devant de la scène. On verra bien ce que ça va donner. Bien sûr, pour l'instant, on n'a pas de date.
Sur
la sortie, ici, on a une date.
Il sortira le 16 juillet 2025 au cinéma.
Eh ben, parfait, impeccable. Bon, bah, 2025, ça va être une grosse année, j'ai l'impression, 2025, parce que bon. Justement, il va y avoir un autre film qui est en cours, et oui, qui pour l'instant bon, était un peu en danger, mais a trouvé une héroïne un peu particulière, et oui. Imaginez-vous si Gabrielle Solis vient en aide à John Wick. On imagine mal l'ancien mannequin incarné par Eva Longoria dans Desperate Housewives voler à la rescousse de l'intrépide tueur à gages joué par Keanu Reeves. Pourtant, le dernier volet de la saga de films d'action réalisé par Chad Stahelski n'aurait pas pu être tourné sans l'intervention de l'actrice derrière le personnage de Gabi dans Desperate Housewives. Si l'actrice ne regrette pas son investissement, le réalisateur voudrait tout de même lui offrir un rôle dans la franchise. Et oui, parce qu'elle a donné quand même pas mal de millions d'euros, de dollars, pour sauver effectivement le film qui était un peu à la traîne. Elle veut un rôle, explique le réalisateur du film. C'est sûr, elle veut faire de l'action. Et j'adorerais travailler avec elle. Nous essayons de trouver quelque chose, assure-t-il. Le premier volet de John Wick a rapporté plus de 86 millions de dollars dans le monde et la franchise a franchi la barre du milliard de dollars avec John Wick chapitre 4. Fort de ces 4 longs métrages, la saga s'est étendue à travers la mini-série The Continental, disponible sur Prime Video depuis septembre 2023. Et il y aura aussi Ballerina, un spin-off se déroulant dans l'univers de la franchise qui est également prévu pour 2025. Pour l'instant, pour John Wick 5, on n'a pas encore de date précise, mais en tout cas, c'est quand même assez sympa de voir que d'autres stars hollywoodiennes viennent au secours de franchises comme ça, non ?
Ouais, je suis d'accord avec toi. Alors, ils avaient tenté, d'ailleurs, je pense qu'il y aura une suite sur Netflix. C'était Atomic Blonde, qui fait partie, alors,
oui.
Il fait partie du même univers que celui de John Wick. Il y a des univers étendus hein, sur John Wick, notamment je me rappelle plus, ça avait l'avocat de Breaking Bad aussi.
Call Me Better Than...
Ça, ouais.
Ah oui, avec le oui je vois l'acteur, j'ai plus le nom de la série en tête, mais effectivement,
mais du coup
oui.
il a fait aussi un film dans l'univers de John Wick, c'est par l'équipe hein, d'ailleurs de John Wick. J'ai hâte. Alors Ballerina, j'ai un peu peur parce qu'il y a eu une projection test qui est sortie, ça a été une catastrophe. Rappelons que le film est réalisé par Len Wiseman. Len Wiseman, c'est la saga Underworld et c'est aussi Die Hard 4 et c'est aussi Total Recall. Alors il y en a que tu peux sauver et Total Recall, moi j'ai un peu de mal.
Il y en a d'autres
sauver, quoi.
Ouais, il y en a d'autres sur lesquels on peut pas sauver.
C'est ça.
Pour finir ces news, on va parler un peu d'une mauvaise pub quand même que nous a fait qu'a fait France 2 à la pop culture dans le 20h de France 2 samedi dernier, samedi 19 octobre, pardon. Un reportage dédié à Superman et à ses prochaines aventures était diffusé. Problème, les images de la bande-annonce du film Superman prévu pour 2025 avec David Corenswede dans le rôle titre était en réalité fausse. Et oui, ce qui n'a pas échappé à certains téléspectateurs ni à James Gunn, comme là le rapporte un internaute sur X, anciennement Twitter. Le reportage dédié aux super-héros de l'univers DC Comics présente des images supposément tirées d'une bande-annonce, mais il ne s'agit pas d'images issues d'un trailer officiel car les studios n'ont à ce jour rien dévoilé sur le futur long-métrage. Comme le souligne Numérama, les images diffusées dans le journal télévisé de Laurent Delahousse proviennent en réalité d'un concept trailer généré en grande partie avec de l'intelligence artificielle et mis en ligne sur YouTube cet été par la chaîne Screen Culture. Une bévue pour laquelle France 2 s'est excusée sur X par le biais d'un message mettant en avant une erreur entre guillemets malencontreuse. Décidément, l'IA n'a pas forcément bonne pub à la télé en ce moment.
Non, puis même quand tu vois la bande-annonce, elle est dégueulasse. Enfin, tu vois très bien que c'est l'IA, ça peut pas être possible que ce soit une bande-annonce, quoi. C'est ça qui est assez fou.
Non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, effectivement. En tout cas, bon, nous chez nous, en tout cas pour le moment, il n'y a pas d'IA. En tout cas, sauf si Jazz est un personnage d'IA ou moi-même étant un personnage d'IA, on ne sait pas, peut-être. En tout cas, l'IA serait superbement bien fait. Allez, nous de notre côté, on va faire notre première pause musicale avec The Rembrandts avec I Bizarre For You. Vous êtes toujours sur Infinity Pop. À tout de suite.
Your job's a joke, you broke your love life's to your way. It's like you're always stuck in second gear when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there
aujourd'hui, c'est les sorties cinéma et accrochez-vous. Accrochez-vous, vous allez en avoir plein les yeux. On va commencer avec une petite bombe qui nous vient d'Amérique, mais pas que, puisque c'est réalisé par Coralie Ferja, qui est une réalisatrice française. Le film s'appelle The Substance. Elle remet en scène une certaine actrice qui se nomme Demi Moore. Il y a aussi Dennis Quaid et Margaret Qualley. Le film a remporté le prix du scénario à Cannes, a eu un petit succès aux États-Unis, hein, malgré son budget. Il a eu, et malgré son circuit limité, a quand même essayé de le rentabiliser. En France, il sort du coup mercredi. Il y a eu quelques avant-premières, il me semble, et les gens n'en sortent pas indemnes. Alors, de quoi parle The Substance ? Alors, avez-vous déjà rêvé d'une meilleure version de vous-même ? Vous devriez essayer ce nouveau produit, The Substance, qui a changé la vie de plusieurs personnes. Il permet de générer une autre version de vous-même, plus jeune, plus belle et plus parfaite.
Avez-vous déjà rêvé d'une meilleure version de vous-même ? Plus jeune, plus belle, plus parfaite. Une seule injection générera une autre version de vous-même. Voici la substance.
Je suis Sue.
Vous êtes engagé.
Voilà. Le film est interdit de 16 ans. Voilà. Rappelons.
C'est pas mal aussi.
C'est pas mal aussi. Allez, on va continuer avec avec un film, mon cher Pelli. Est-ce que tu aimes bien Forrest Gump?
Oui, ah, je vois d'où tu veux en venir. Oui, j'aime bien Forrest Gump.
Et ben, je vais parler de R, les plus belles années de notre vie, de Robert Zemeckis, avec tout le casting de Forrest Gump. On a Tom Hanks et Robin Wright qui rejouent un couple après ce magnifique film, hein, Forrest Gump. Donc, en fait, toute l'histoire nous transporte au final dans la construction d'une maison, la construction d'une famille. Et ça a l'air assez incroyable. Alors, on a très peu la bande-annonce nous montre très peu de choses, mais on utilise beaucoup le rajeunissement, et c'est assez bluffant, puisqu'on voit Robin Wright et Tom Hanks rajeunir. Ça, c'est assez incroyable. Alors attention, le film se tape une mauvaise critique aux États-Unis et c'est le futur bide de Robert Zemeckis. Ça fait très longtemps qu'il n'a pas fait de gros succès, monsieur Zemeckis. Et là, c'est a priori, le film a rapporté 4,5 millions au box-office US pour un budget avoisinant les 50 millions. Donc c'est le bide assuré, mais j'ai quand même envie d'aller le voir.
C'est ici que l'on veut être et pas là-bas.
Ça te fait plaisir. Tu peux rester toute la nuit ici.
Effectivement, il faudrait voir ce que ça peut donner. En tout cas, oui, souvent les images comme ça de synthèse pour le rajeunissement avaient été utilisées avec Robert Downey Jr. sur, par exemple, des films Avengers.
Oui, tout à fait.
Ça a été utilisé pour d'autres films aussi. Généralement, c'est une technologie qui est plutôt bien utilisée. Donc, on verra ce que ça peut donner. Mais oui, effectivement, comme tu disais, c'est peut-être un bide avancé. On verra bien.
On termine par deux films français. On va terminer par Louise Violet de Éric Bénard avec Alexandre Lamy, Grégory Gadebois et Jérôme Kirchner. Alors, 1889, envoyée dans un village de la campagne française, l'institutrice Louise Violet doit y imposer l'école de la République, c'est-à-dire une école gratuite, obligatoire et laïque. Une mission qui ne la rend pas populaire ni auprès des enfants, ni auprès des parents.
Il m'a été demandé de vous trouver une affectation. Prouvez votre valeur, nous verrons si nous pouvons vous trouver quelque chose d'un peu moins extrême. Je trouve que la République a été bien généreuse, mademoiselle.
Soyez où je peux trouver monsieur le maire ?
Qui demande ?
Louise Violet, je suis la nouvelle institutrice.
Et puis on termine avec Trois amis. Alors c'est le retour aussi de Emmanuel Mouret hein, au cinéma. C'est une comédie dramatique avec Camille Cotin, Sarah Forestier et Indiane Herr. Joanne n'est plus amoureuse de Victor Thor et souffre de se sentir malhonnête avec lui. Alice, sa meilleure amie, la rassure. Elle-même n'éprouve aucune passion pour elle et pourtant leur couple se porte à merveille. Alors c'est un scénario, un peu un pitch, un peu vaudeville, c'est-à-dire qu'il va y avoir des destins croisés, des tranches de vie. Voilà, c'est un peu la façon d'Emmanuel Mouret, je suis pas étonné, avec des dialogues bien écrits, et écoute, c'est un film qui me tente plutôt pas mal.
Mais écoute, des aventures, j'en ai déjà eu, et ça me fait vraiment pas rêver. Tu vois, c'est un peu comme l'escalade, voilà. Bon, ben, y a des gens qui adorent ça, et ben moi j'ai le vertige.
T'as plus envie de... Ouais. Enfin, j'ai plus jamais envie de faire l'amour avec moi.
Alors moi, s'il faut te dire la vérité, j'ai jamais été amoureuse d'Eric. C'est vrai, mon amour.
Et toi, mon cœur.
Il croit que je l'aime exactement comme lui-même.
Ok, d'accord. Ok, effectivement. Moi, sur les films, je serais plutôt tenté de... Sur le tout premier, c'était...
The Substance.
The Substance,
ouais. Pareil.
Plutôt tenté par celui-là pour l'instant. C'est vrai que le film avec de Robert Zemeckis, bah, pour une fois, je vais peut-être passer mon tour sur ça. Ça peut être sympa à regarder, effectivement, mais ça aurait peut-être pas... voilà, je sais pas. Pour le coup, ça me dit pas trop, effectivement, ce film. Enfin, bon, on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, merci à toi pour ces sorties ciné. On va faire une nouvelle pause musicale avec So What de Pink. On se retrouve tout de suite après.
I am a rock star. I got my rock and roll.
Et c'était Pink sur Infini Radio. Vous êtes toujours sur votre émission du lundi Infini Pop. On revoit un peu la pop culture avec vous tous les lundis pendant une heure avec Jazz. Et Jazz, du coup, on va passer maintenant au Focus Musique et on va parler d'un groupe qui refait surface et c'est plutôt une bonne nouvelle, on va parler de The Cure.
Et oui, 16 ans après leur dernier album, The Cure revient avec un magnifique album intitulé Songs of the Lost World. Que dire? Des titres magnifiques. Alors après des années d'attente, The Cure revient enfin sur le devant de la scène avec un album qui cristallise leurs émotions les plus profondes et propose une réinvention audacieuse de leur son. Alors ce nouvel opus, tout en réaffirmant l'identité gothique et mélancolique qui a fait leur gloire, surprend par une production raffinée, des textes puissants et une énergie presque intemporelle. Depuis leur début, The Cure a su mêler la poésie des ténèbres et à une recherche sonore en constante évolution. Dans ce nouvel album, Robert Smith, avec sa voix envoûtante et toujours aussi chargée de tristesse élégante, plonge plus profondément dans des thèmes d'isolement, de nostalgie et d'espoir contrarié. Mais contrairement aux albums précédents, on ressent ici une ouverture subtile vers quelque chose de lumineux, comme une volonté de renouveau après les ténèbres. Les morceaux de cet album forment un récit continu, comme une histoire racontée en plusieurs actes. On y ressent à la fois une introspection personnelle et une connexion avec le monde extérieur. Alors certains titres évoquent la perte, la nostalgie, la douleur. D'autres explorent le courage, la guérison et la résilience. Ce jeu de contraste entre noirceur et éclat d'espoir crée une œuvre complexe où chaque chanson semble dialoguer avec la précédente. Alors que de nombreux groupes de leur époque ont choisi de se tourner vers la nostalgie ou de reproduire d'anciens succès, The Cure prouve qu'ils n'ont rien perdu de leur audace artistique. Donc ce nouvel album réussit à marier leur univers gothique originel à des influences contemporaines, offrant à leur fanbase une œuvre vibrante et résolument moderne. Un retour aussi attendu que salué qui rappelle à chacun que The Cure reste un pilier de la scène musicale capable de se réinventer sans jamais trahir son âme. Et si j'avais un son à vous conseiller, ce serait Handsong, le dernier titre de l'album, qui est tout simplement magique.
Ok, effectivement, il a fallu attendre 16 ans du coup.
Oui, depuis 2008.
Pour revoir un retour de The Cure. Et puis c'est un retour qui fait plutôt du bien, je pense, effectivement, depuis le dernier album qui était Disintegration, je crois.
Ouais, en 2008.
Si je dis, ouais, pas, de, ouais. Si je dis pas de bêtises. Donc voilà, du coup. Et toi, Jazz, du coup, est-ce que tu as eu l'occasion d'écouter l'album ?
Je l'ai écouté, alors, je l'ai pas écouté depuis sa sortie, je l'ai écouté hier soir et tout ce matin. Mm-hmm. J'ai adoré, je trouve ça vraiment, vraiment merveilleux. Alors, il faut avouer que en fait, les fans attendent cet album depuis un certain temps. Il avait été annoncé en 2022 en disant qu'il bossait sur deux albums, et notamment Songs of the Lost World. Et lors de leur tournée, leur dernière tournée en 2023, ils ont chanté, enfin Robert Smith a chanté plusieurs titres de cet album-là, et tout le monde attendait, et ça a débarqué, et vraiment incroyable. C'est vraiment une pépite. Je vous conseille vraiment d'écouter ce dernier album, c'est incroyable. Il est sorti en vinyle, et je pense que je vais le prendre en vinyle.
Et 65 ans, hein, Robert Smith.
Ah oui, moi je l'ai vu à Rock en scène. Bon, il bouge pas trop, hein, on va pas se mentir. Mais...
Oui, bah 65 ans, on se pense bien, oui.
Mais c'est incroyable.
C'est moins.
Incroyable.
Merci pour ce Focus Musique Jazz sur The Cure et on va s'écouter non pas un nouveau titre de The Cure mais plutôt un ancien. C'est Close to Me de The Cure. On se retrouve tout de suite après sur Infini Pop. The Cure, Close to Me, vous êtes toujours sur Infinipop et tout de suite on va passer à la petite histoire de jazz et on va parler d'un générique que vous connaissez bien dans Infinipop vu qu'on le passe en fin d'émission et aussi vous entendez sa voix dans l'introduction d'Infinipod. On va parler de Retour vers le futur, Jazz.
Nom de Zeus, Marty. Et oui, on va parler de...
Nom de Zeus.
On va parler de Retour vers le futur. Alors, on va parler d'une petite anecdote de Retour vers le futur. Alors, je pense que tout le monde connaît maintenant cette anecdote-là. Savais-tu que ce n'était pas, à la base, Matt Cutchifog qui devait jouer le rôle de Marty McFlex, mais Eric Stoltz.
Tout à fait.
Et ouais, parce que lorsque Retour vers le futur a commencé son tournage en 84, l'acteur Eric Stoltz avait été choisi pour interpréter Marty McFly. Le réalisateur Robert Zemeckis et le producteur Steven Spielberg avaient initialement pensé à Michael J. Fox pour le rôle. Cependant, celui-ci était déjà engagé sur la série Family Ties. Donc c'est Sacré Famille en français. Hein. Et son emploi du temps ne lui permettait pas de participer au film. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que Eric Stoltz, qui venait de percer dans le film Mask, semblait être en fait une sorte d'alternative solide et convaincante. Pendant 5 semaines, le tournage a eu lieu avec Eric Stoltz dans le rôle de Marty. Cependant, rapidement, des tensions ont commencé à émerger sur le plateau. Stoltz, c'est un acteur très engagé et adepte de la méthode. Hein, vous savez, hein, c'est la fameuse méthode dramatique où le mec s'approprie vraiment le personnage. Et il voulait interpréter en fait un Marty avec une intensité plus dramatique. Mais cela contrastait avec l'aspect humoristique et léger que Zemeckis et les producteurs imaginaient pour le personnage. Il voulait un héros maladroit et attachant qui ne se prend pas trop au sérieux, tandis que Stoltz abordait le rôle avec gravité. Alors la chimie ne fonctionnait pas et Zemeckis a vite réalisé que le ton du film risquait de ne pas correspondre avec ce qu'il voulait. Alors finalement, après plusieurs discussions et une analyse approfondie des premières scènes tournées, Zemeckis a pris la décision risquée mais nécessaire de renvoyer Stoltz après 5 semaines de tournage. Alors Steven Spielberg, producteur exécutif, a soutenu cette décision, bien que cela représente un investissement financier important et un risque énorme pour le planning de production. Ils ont alors relancé Michael J. Fox et au final la chaîne qui diffusait Family Ties a accepté de prêter Michael J. Fox pour le tournage de Retour vers le futur à condition de jongler les deux projets, c'est-à-dire que le matin Michael J. Fox partait sur le tournage de Family Ties et le soir il était sur le tournage de Retour vers le futur.
Ça fait une sacrée journée.
La suite, vous la connaissez, hein, 3 films exceptionnels, l'explosion de Michael J. Fox dans les années 80, il a enchaîné beaucoup de films, des films qui ont eu un certain succès, après un essoufflement de carrière, bien évidemment, et puis après, malheureusement, la maladie l'a un peu condamné. Mais Retour vers le futur, c'est vraiment une trilogie qui a bercé notre enfance, qui a bercé aussi notre adolescence, parce que encore maintenant, c'est des films qui sont rediffusés. Et je pense que avec Eric Stoltz, ça n'aurait pas eu le même effet. Je sais pas ce que t'en penses, mon cher Pedro.
Bah c'est vrai qu'après ouais cette anecdote je la connaissais déjà effectivement. C'est vrai qu'Eric Stoltz était considéré comme un peu trop sérieux, donc du coup n'arrivait pas à faire provoquer forcément les rires qui étaient prévus dans le scénario. Bon, après effectivement le film aurait pu avoir une autre gueule n'empêche que celui qu'on connaît, parce que et ben pareil pour le rôle de Doc, la production pense tout d'abord à John Lithgow, mais l'acteur n'étant pas disponible pour le tournage, il se tourne alors vers Lyod. Son deuxième choix, Forlod, voilà, c'est ça. D'abord hésitant, l'acteur se laisse convaincre par sa femme qui le pousse à accepter le rôle, hein. Merci Madame Lyod. Lyod s'est ensuite inspiré d'Albert Einstein et du chef d'orchestre Léopold Stokowski pour construire son personnage. Et ben, grâce à lui, n'empêche, on a eu l'un des personnages les plus marrants de la pop culture. Franchement, c'est comme quoi des fois ça joue un petit hasard comme ça, mais ça pop.
Oh, voilà. Ça, j'adore. C'est un pop.
T'as vu ça pop, carrément. Et voilà, tout à fait. Et d'ailleurs, j'en profite pour te raconter une autre anecdote sur Retour vers le futur ou à nos auditeurs, pardon, qui s'ils ne la connaissent pas, normalement ça devait pas être une voiture. qui devait servir de,
je ne savais pas.
D'objet pour voyager dans le temps. Et non, 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 non. Avant de choisir la fameuse DeLorean, les deux scénaristes ont envisagé un réfrigérateur fonctionnant à l'énergie d'une explosion atomique. Donc d'accord. L'idée, elle est rapidement abandonnée pour ne pas donner de mauvaises idées aux enfants qui se seraient amusés à reproduire cette scène, forcément. Et oui, parce que tu t'enfermes dans un réfrigérateur pensant que ça peut voyager dans le temps, forcément, ça casse un peu le délire. Le réfrigérateur est donc remplacé pour une voiture. Le réfrigérateur est remplacé par une voiture et c'est plus propice au voyage dans le temps. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans le film, on a Doc Brown qui sort cette fameuse réplique, quitte à voyager dans le temps, autant que ça ait de la gueule. Donc oui, effectivement, avec une DeLorean, ça a plus de gueule qu'avec un réfrigérateur. Toi, je suis sûr que tu es le genre de gamin qui serait rentré dans le réfrigérateur
pour tester.
Moi, je dis ça parce que moi-même,
non,
je l'aurais
vrai,
fait.
T'as raison. Je l'aurais fait.
Voilà, on l'aurait tous fait. On est bien d'accord.
Oui, non, mais carrément.
On l'aurait tous fait. En tout cas, non, mais ça c'est sûr et certain. En tout cas, il y a aussi une dernière anecdote avant qu'on en finisse. Le président Reagan, qui est un grand fan de Retour vers le futur, la production fait approuver la scène qui parle du président Reagan par la Maison Blanche afin de s'assurer qu'elle n'était pas offensante. Grand fan du film, il déclare lors de son discours sur l'état de l'Union en 1986 « Jamais il n'y a eu de période plus excitante pour vivre, une période d'émerveillement et de réussite héroïque. Comme il est dit dans le film Retour vers le futur, là où on va, il n'y a pas besoin de route. »
C'est pas mal.
Okay. Qui est dans le générique aussi d'Infini Pop, oui, bien sûr. Oui. Bah oui, attends. Non mais du coup, en tout cas, merci pour cette petite anecdote sur le changement de d'acteur pour Retour vers le futur. Nous, on va s'écouter une nouvelle chanson pour adoucir vos oreilles, bien sûr. Ce sera la douce voix de Juliette Armanet avec Flamme. On se retrouve juste après.
Flamme,
Juliette Juliette Armanet. On se retrouve encore une fois sur Infinipop avec les news et on va tout de suite taper dedans effectivement avec une actu un peu plus bande dessinée que film. Voilà, le cinéaste Fab Caro, arrivé à l'écriture des aventures d'Astérix pour l'Iris Blanc publié en 2023, et ben il va rempiler pour le prochain album du héros de bande dessinée gaulois pour l'écriture de l'histoire de ce 41e album dont le titre et la date de sortie ne sont pas encore connus. Fab Caro a confié être plus près de la fin que du début, sans donner de détails, tandis que Didier Conrad restera pour sa part au dessin. Les précédentes aventures d'Astérix, commercialisées en octobre 2023, avaient terminé à la première place du classement des ventes de livres en France l'an passé, selon le palmarès de l'Institut JFK. Qui fait référence avec 1,54 million d'exemplaires écoulés en 2 mois. Toi, Jazz, est-ce que tu es un lecteur d'Astérix ?
Alors, je suis un lecteur d'Astérix, c'est-à-dire, oui, j'achète les BD quand ça sort. Je trouve que c'est... je sais pas, je retombe en enfance quand je lis Astérix. Alors, je suis un peu moins fan des films.
Ouais, pareil.
Parce que on peut rebondir sur quelque chose. Il y a Fabien Antonente hein, qui souhaitait réaliser et écrire une nouvelle Astérix. Ce serait Astérix en Corse et il souhaiterait avoir Ficachour en Astérix et Didier Bourdon en Obélix.
Voilà. Oh là. Mais pourquoi faire autant de mal?
Je pense qu'on lui donne pas de budget.
Moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'en France, on arrive à faire de très bons films, souvent même. Mais par contre, pour ce qui est des adaptations de bandes dessinées, alors que la majorité de ces adaptations, c'est des bandes dessinées que nous-mêmes ou les Belges avons fait, on n'y arrive pas. Ça ne veut pas, ça ne fonctionne pas. Spirou, ça n'a pas fonctionné. La gaffe, ça n'a pas fonctionné. Astérix, mis à part celui d'Alain Chabat et le premier peut-être pour le côté un peu vas-y c'est parti, ça n'a pas fonctionné. Même moi, j'ai l'impression que même Alexandre Astier s'est cassé les dents sur Astérix.
Ah non, ça a marché. Donc, les années, ouais, ça a marché. Ouais, les deux. D'ailleurs, il réclamait le troisième et je crois qu'il est. Il ne fera pas. Il y a Chabat qui revient là, avec Astérix en animé.
Chabat, oui. Netflix. Oui, justement, là, je pense que ça peut être une bonne nouvelle, mais j'ai l'impression, par exemple, Ducobu, l'élève Ducobu, ça n'a pas fonctionné. Enfin, ça fonctionne. Ça fonctionne, mais c'est un certain public. C'est un certain public. Moi, je trouve que l'humour est assez pâteux, pâteux, voilà. Je veux dire, t'en fais pas non plus 4 films, hein. C'est assez, après, c'est mon avis personnel.
Il y a eu un moment donné, alors pas le troisième, je l'ai pas vu, hein, mais le troisième s'est pris une mauvaise critique. Mais il y avait l'Argo Winch qui avait très bien fonctionné, le 1, le 2 en tout cas.
L'Argo Winch, oui. Ouais. Bon, bah, comme quoi ils sont pas tous comme ça, mais bon. Voilà, en tout cas, pour l'instant, moi ça me fait un peu peur d'entendre que des prochains films Astérix vont être encore produits. Ne pas laisser ça à la bande dessinée ou au dessin animé directement. Voilà, le berceau originel, ce serait mieux quand même, hein, effectivement. Autre nouvelle, on va rester dans le monde du dessin animé, et oui, parce que est-ce que tu connais l'ours en peluche Paddington?
Oui, je connais, j'ai jamais vu, mais je connais.
Oui, on connaît tous, voilà, l'ours en peluche le plus bavard de la littérature britannique. Eh ben, il peut désormais voyager en toute légalité. Et oui, Paddington, le personnage de fiction dont les prochaines aventures au Pérou sont prévues pour février 2025 dans les salles obscures, il a obtenu son passeport officiel de la part du ministère de l'Intérieur britannique. Alors, comme l'a révélé Radio Times, le Home Office a en effet édité un passeport officiel au nom de l'ours préféré des Britanniques. Rob Silva, coproducteur de du prochain long métrage, a révélé avoir fait une demande de faux passeport pour pouvoir l'utiliser dans le film. Mais à sa grande surprise, l'administration a fabriqué un passeport authentique au nom de l'ours en peluche. Comme le montre, une image du document officiel dévoilé par le Guardian, le ministère de l'Intérieur a complété de manière intégrale avec son nom de famille, Brown, la date de naissance le 24 juin, son pays de naissance, le Pérou. Il s'est même amusé à choisir une photo d'identité humoristique. Le personnage de fiction imaginé par l'écrivain britannique Michael Bond en 1958 a donné lieu à 28 romans, une série animée et 3 films. La franchise suit les aventures d'un un ours en peluche solitaire réfugié péruvien qui a traversé l'océan en se nourrissant de marmelade. Il est retrouvé dans la gare de Paddington à Londres, muni d'une valise élimée et d'un duffel coat bleu et d'un chapeau rouge pour seule possession, avec une pancarte autour du cou sur lequel on peut lire « Occupez-vous de moi ». Et il est ensuite adopté par la famille Brown. Le personnage est devenu l'un des emblèmes du Royaume-Uni, décliné en dizaines de milliers de produits dérivés, apparaissant même aux côtés de la reine Elisabeth II lors de son jubilé en 2022. C'est quand même plutôt sympa, c'est comme si nous, par exemple, Tintin, on lui faisait un passeport pour qu'il puisse voyager. Ouais, c'est assez cool.
Non, c'est cool, franchement, ouais. Ouais, c'est
une petite bonne nouvelle. Je pensais pas que c'était aussi emblématique au Royaume-Uni, Paddington.
Écoute, moi non plus. J'ai jamais regardé. Je sais pas de quoi ça parle. Je sais juste que c'est un petit ourson, mais voilà, je suis un peu à l'écart par rapport à ça. Mais oui, c'est un gros. Et puis même au cinéma, on le voit, c'est des gros succès hein, à chaque fois.
Tout à fait, c'est vrai. Toi, Jazz, de ton côté, t'as des nouvelles de Tom Cruise.
J'ai des nouvelles de Tom Cruise. Hein. Vous savez que Tom Cruise est en plein, comment dire, à plein de projets, hein, notamment Top Gun 3, hein, qui est un grand projet, Mission Impossible, hein, qui commence tout doucement sa campagne de promotion. Et puis, il revient. Et oui, il revient, mes amis. Dans Jour de Tonnerre 2, en tout cas, c'est son souhait. Il commence à négocier avec la Paramount pour faire la suite du rip-off de Top Gun, hein, qui avait été réalisé à l'époque par Tony Scott avec Michael Rooker et Tom Cruise. Et il y avait aussi Nicole Kidman à l'époque dans ce film-là. Ça racontait exactement la même histoire que Top Gun. C'est un jeune pilote de course un peu foufou, pilote de NASCAR, hein, qui veut devenir en fait le meilleur des pilotes. Le film avait été vraiment incroyable, hein. Enfin, moi j'adore ce film-là. Et a priori, monsieur Tom Cruise souhaite faire une suite à ce film-là. Je dis banco.
Ouais, pourquoi pas. Ça peut être assez intéressant. On peut voir si ça a le même succès que le nouveau film après Top Gun, pourquoi pas, hein, ça peut carrément être plutôt pas mal. Ça avait déjà cartonné à l'époque.
Ça avait été alors
Jour
déjà,
de tonnerre, ça avait bien
de,
bien intéressant.
Jour de tonnerre n'a pas aussi bien fonctionné que Top Gun, mais ça avait eu un petit statut culte à l'époque, bien évidemment. Ouais.
Ok, d'accord, effectivement. Il y a eu de toute façon au box-office 1,3 million au box-office d'entrée.
Oui, pour le premier jour.
Et ça avait fait. Ça avait fait 87 millions de dollars au total. Donc c'est plutôt intéressant. Voilà. On va voir ce que ça va donner. On espère que Tom, en tout cas. J'espère bien sûr que les cascades seront bien sûr faites par lui. Hein, toujours. Bon, en espérant qu'il se fasse pas mal quand même. Hein. C'est le plus important quand même. En tout cas, voilà, et c'était le pilote Tim Richmond qui a inspiré en partie le personnage principal du film, bien sûr, Tiens, Jour de Tonnerre. Voilà. Ok, du coup, on va continuer dans les news avec, est-ce que tu connais les concours de sosie, Jazz ?
Oui, et puis tu te rappelles, il y avait une émission à l'époque sur TF1, un concours de sosie.
Et bien voilà, et bien figure-toi que Timothée Chalamet s'est rendu le 27 octobre à un concours de sosie de lui-même qui était organisé au Washington Square Park de Manhattan à New York. Donc les sosies de Timothée Chalamet se sont réunis à 13h dans le parc pour tenter de gagner $50 à la clé. Ça fait pas beaucoup pour être le sosie de Timothée Chalamet, mais bon. Sauf que le rassemblement n'était pas autorisé pour autant de personnages et la police a dû intervenir. Voilà. Selon Variety, un sosie de l'acteur a été arrêté. Le motif n'est pas connu. Le vrai Timothée Chalamet, lui, est arrivé environ 30 minutes après le début de la manifestation avec sa casquette grise et son masque sur le visage pour passer incognito. Une fois au milieu, il a enlevé son masque tandis que les cris éclataient dans tout le parc selon Variety. Il a ensuite enchaîné les selfies. Vous pouvez voir les vidéos sur les différents réseaux sociaux sur X, sur Facebook, etc. et Instagram. Vous pouvez voir les vidéos. En tout cas, c'est assez marrant de voir comme ça les acteurs qui participent à des concours de sosie d'eux-mêmes. Et pour la petite histoire, il y a un acteur mondialement connu qui avait participé à un concours de sosie de lui-même et qui n'a pas gagné, c'est Charlie Chaplin.
Ah ouais, d'accord, ok, je ne savais pas. D'accord.
Charlie Chaplin avait participé à l'époque, à son époque bien sûr, à un concours de sosie de lui-même et bah, il n'a pas du tout gagné.
D'accord, ok.
Voilà. C'est assez drôle de se dire que bon, bah, au final, même le personnage, de, voilà, moi ça me tue quand même de me dire que les jurés de ces concours sont des personnes qui sont apparemment spécialistes dans la personne qui doit être sosie, mais au final ils n'arrivent pas à faire gagner le vrai acteur. C'est assez drôle, voilà.
Ok, d'accord.
Ça me fait bien rire les choses comme ça en général, mais bon, là pour le coup pour Timothée Chalamet, on ne saura pas s'il aurait gagné ou pas le concours de sosie, mais en tout cas ça aurait pu faire une bonne blague effectivement. Pour finir avec les news, il a marqué l'été 2024 grâce aux millions de fans de la chanteuse Charlie XCX. Alors je sais pas si on dit ça comme ça, le mot brat. Alors le mot brat, qui est souvent traduit par sale gosse en français, a été élu mot de l'année par le renommé dictionnaire Collins. Ce mot a été choisi par la chanteuse britannique Charlie comme titre de son dernier album paru au début du mois de juin et qui a rencontré un immense succès. Un véritable mouvement s'est formé autour de ce thème devenu viral sur les réseaux sociaux et qui s'est même invité jusque dans la campagne présidentielle américaine. Charlie XCX prolonge le Brat Summers avec des featuring de haut vol. En raison de ce succès populaire, le dictionnaire Collins a été jusqu'à revoir la définition du mot pour y ajouter un deuxième sens. Initialement défini comme une expression utilisée de façon méprisante ou ludique pour désigner quelqu'un, en particulier un enfant qui se comporte mal ou vous agace, le mot brat peut désormais aussi servir pour caractériser une attitude confiante, indépendante et hédoniste, explique désormais le dictionnaire. Le terme jusque-là plutôt péjoratif est devenu un symbole de l'acceptation de soi et de ses imperfections. Le dictionnaire Collins a également ajouté un autre mot qui a marqué la pop culture en 2024, le terme era, qui trouve son origine dans la célèbre tournée Eras Tour de Taylor Swift. Cette tournée a captivé des millions de fans en Europe, faisant vibrer le public avec ses performances inoubliable. Les experts du Collins définissent une era comme une période de la vie ou de la carrière d'une personne qui présente un caractère distinctif. La liste des nouveaux mots 2024 comprend également plusieurs termes popularisés par la génération Z, celle née entre 95 et 2012, et la génération Alpha née après 2012. Donc voilà, c'est plutôt sympa et tu te dis quand même que le dictionnaire britannique ne manque pas d'idées quand même pour faire ça. C'est assez intéressant.
Moi, je suis d'accord, carrément.
Donc voilà, donc maintenant, Brat voudra dire effectivement que c'est une personne de confiance, indépendante et hédoniste, et non plus un petit morveux qu'on a envie de gifler. Non, je rigole, je rigole bien sûr. Donc voilà, en tout cas, la violence des termes. Voilà. Merci en tout cas au dictionnaire Collins de nous avoir, d'avoir rajouté ce terme du coup à la langue britannique. De notre côté, on va s'écouter Thérapie Taxi avec Été 90 juste avant de terminer cette émission avec la watchlist, et une watchlist un peu spéciale aujourd'hui. C'est parti pour Thérapie Taxi.
On a dévalé la pente en moins de deux. On a fait comme si on savait pas. On a évité les regards ambigus. On a fait comme si on pouvait pas. On a dessiné la zone, évité les roses. Repousser la faune, compliquer les choses. Mais maudit ami, je veux plus danser ce slow avec toi. Souviens-toi des années 90, quand dans la cour, tous les jours, j'étais ton roi. Tu as bien grandi et tu me brusques, et parfois même tu te loves dans mes bras. Mais jamais, jamais, jamais plus, car je le sais, je suis l'homme qu'on ne voit pas. Et si le soleil se lève sur les autres, je sais que c'est moi qui ai chassé les roses. Amour d'amour, tu le sais, c'est ma faute. J'ai bien trop peur pour casser les choses. On va s'en tenir simplement à l'embrouille. Je sais que c'est triste, mais je suis sous hypnose. Tu as décidé des règles en fin de jeu. J'étais teenager amoureuse. Puis le temps s'est écoulé en moins de deux. Fini les années délicieuses. Mais maudit ami, je veux plus danser ce slow avec toi. Souviens-toi des années 90, quand dans la cour tous les jours t'étais moi. Et si le soleil se lève sur les autres,
Je sais que c'est moi qui ai chassé les roses. Amour d'amour, tu le sais, c'est ma faute. J'ai bien trop peur pour casser les choses. On va s'en tenir simplement à nos rôles. Je sais que c'est triste, mais je suis sous hypnose. Plus tu t'approches et plus j'appuie sur pause. Et seul tous les soirs.
Et seul tous les soirs.
Et seul tous les soirs, je reste dans le noir.
Et seul tous les soirs, je reste dans le noir.
Et seul tous les soirs, je reste dans le noir.
Et seul tous les soirs, je reste dans le noir.
Je sais que c'est moi qui ai chassé les roses. Amour d'amour, tu le sais, c'est ma faute. J'ai bien trop peur pour casser les choses. Et si le soleil se lève sur les autres, je sais que c'est moi qui ai chassé les roses. Amour d'amour, tu le sais, c'est ma faute. J'ai bien trop peur pour casser les choses. On va s'en tenir simplement à nos rôles. Je serai là pour toujours ton épaule. Je sais que c'est triste, mais je suis sous hypnose. Plus tu t'approches et plus j'appuie sur pause.
C'était Thérapie Taxi avec Été 90 et on va passer tout de suite à notre dernière partie de l'émission. Je sais, ça passe très vite à chaque fois. C'est la watchlist. Alors aujourd'hui, ça va être une watchlist, un peu spéciale. Et oui, puisque notre ami ici présent, Kate Jazz, nous a offert à Infini Radio un petit... une petite création made in jazz, je dirais, voilà, pour Halloween. Et c'est un récit horrifique qui s'appelle Les Voiles Rouges, que vous avez pu entendre sur Infini Radio et que je vous conseille de réécouter en allant sur le site d'Infini Radio. Alors Jazz, parle-nous de ce récit, du coup, comment t'es venu l'idée? Comment est-ce que ça a travaillé dans ta petite tête?
Alors déjà, moi je tiens à remercier Nanou, hein, qui m'a envoyé un petit message et qui... Je voulais que je fasse quelque chose un peu différent pour Halloween, pour la rubrique dans la tête de Jazz. Et donc je lui ai proposé deux idées, soit créer, en fait écrire une histoire originale, soit raconter l'histoire d'un tueur en série, de films, hein, notamment Freddy ou Jason. Et en fait elle a opté pour la première option. Et à partir de là, j'ai commencé à réfléchir ce que je pouvais inventer.